Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'atelier des médias. Nous continuons cette année notre découverte de médias innovants par leur forme, leur esprit et leur approche éditoriale. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de porteuses de projets qui ont en commun le souci des jeunes, la libération d'une parole rare et une fibre africaine à laquelle RFI oblige, nous sommes toujours très sensibles. Et nous commençons par un coup de cœur qui fait l'unanimité de notre équipe. Un site web lancé au Bénin en 2014, dont les textes, les images léchées, le design, l'esprit, tout dégage une modernité et un talent hors du commun. Nom de code, Irao.
Alors, Irao veut tout simplement dire « étoile » en langue nago du Bénin. Et j'ai choisi cette image parce que je trouve que ça symbolise vraiment le talent, ça symbolise vraiment tout ce qui représente une inspiration, un guide, une lumière. Donc voilà.
C'est la douce voix de Mylène Flicka que vous venez d'entendre. Elle est au micro de Mathilde Saliou qui a réalisé la plupart des entretiens que vous allez écouter aujourd'hui. Mylène a 21 ans, elle vient d'arriver en France pour ses études. Malgré son jeune âge, elle a déjà un parcours impressionnant dans l'univers médiatique. Elle est blogueuse et web activiste féministe depuis 7 ans et elle a fondé Irao il y a 3 ans.
Irao est un média qui inspire le monde par l'histoire des talents africains. On a commencé déjà par regarder autour de nous. Quand j'ai commencé l'aventure avec Irao, j'ai regardé autour de moi des jeunes qui, à mon avis, étaient quand même une source d'inspiration pour leur père, même s'ils n'étaient pas très connus. Donc on a par exemple interviewé M. Ulrich Sossou, qui est un entrepreneur web, qui est parti de rien et qui a réussi à créer un empire. On a interviewé une jeune rôleuse de 13 ans à peine qui est championne ouest-africaine. Donc ce sont des gens autour de nous, des jeunes autour de nous qui réalisent quelque chose mais dont on n'entend pas forcément parler. Donc par mois, il y a un profil, une histoire que nous racontons. Une histoire, c'est-à-dire une personne, un jeune de moins de 30 ans, africain, talentueux, créatif et qui a un impact sur sa communauté. Mais à côté de cela, chaque jour, quotidiennement, nous partageons des articles sur les innovations un peu en Afrique, sur tout ce qui représente à notre avis quelque chose d'impactant sur la communauté. Parce que c'est très important de mettre en avant toutes les initiatives, toutes les innovations technologiques, tous les talents créatifs qui réalisent quelque chose. Donc ça, c'est le volet Irao News. Et ensuite, nous avons un volet vidéo qui est Irao TV. Nous allons faire des reportages, nous allons dans la ville poser des questions aux gens. On a réalisé des reportages sur le graffiti, sur un jeune photographe béninois qui s'appelle Yannick Folie. Voilà, qui sont les jeunes talents qui vous inspirent? On est allé à Cotonou, dans les rues de Cotonou, on a posé le micro, donné le micro aux gens et on a demandé qui sont les jeunes talents qui vous inspirent. Donc, on essaye en fait de voir tous les sujets qui, à notre avis, peuvent rassembler les jeunes autour d'un idéal et les amener à se motiver quotidiennement pour réaliser leurs rêves.
Bonjour à tous, c'est Jessica de la team Irao. Alors aujourd'hui, je vous amène au travers de la ville de Cotonou pour interroger des personnes. On va leur demander qui sont les Béninois qui les inspirent au quotidien et ce pourquoi ils sont fiers d'être Béninois. Alors, suivez-moi.
RFI. Donc dans toutes ces interviews, dans tous ces portraits de talents, vous utilisez un vocabulaire véritablement jeune de Nabil, qui est photographe de mode de rue. Vous dites qu'il est sapé comme jamais. Yann Asro, vous le présentez en symbole de tous les danseurs urbains qui ont été hués. Pourquoi avoir choisi ce ton, ce vocabulaire?
Il y a une phrase que je dis souvent à tous les membres de la team Irao, c'est « Nous sommes jeunes, nous sommes qui nous sommes imparfaits et nous le vendons tel quel. » Nous n'essayons pas en fait d'adopter un ton qui n'est pas le nôtre, parce que beaucoup de personnes, je crois, essayent de créer un média, mais d'adopter un ton qui ne correspond pas à leur cible. Parce que les gens qui nous lisent, les gens qui nous écoutent, ce sont des jeunes comme nous qui sont âgés entre 18 ans et 35 ans et qui viennent sur notre média pour trouver une inspiration. Nous n'allons pas leur parler avec un ton doctrinal, nous n'allons pas leur parler avec un ton très lourd qu'ils ne comprendraient pas. Donc nous essayons autant que possible d'écrire en nous disant que nous écrivons des choses que nous savons que nous allons aimer lire nous-mêmes. Voilà.
Par ailleurs, dans les portraits qui paraissent donc une fois par mois, tu utilises aussi souvent le jeu. Tu te mets littéralement en scène. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'était important?
Oui, c'était important parce que on s'amusait. Voilà. Au départ, c'était ça, s'amuser tout simplement. Et chaque fois qu'on rencontre un jeune comme nous qui fait quelque chose d'incroyable, on laisse éclater notre créativité. Donc on se dit, comment est-ce qu'on fait pour que cet article soit très beau? Déjà, notamment par le visuel, les photos. Donc on essaye de créer un univers, un thème autour de shooting qu'on réalise, parce que c'est un shooting, donc on va dans les rues de notre ville et on essaye de trouver l'endroit qui correspond le mieux à la personnalité de la, du Irao qui est interviewé. Donc on se prend en photo, on essaye d'être le plus naturel possible, on essaye de montrer l'ambiance qui prévaut quand on est en train de faire cette interview-là. Et aussi, je crois que ça fait partie des choses qui ont fait le succès de Irao, c'est qu'on a réussi à donner une certaine image à toutes les interviews, à toutes les histoires qui passaient.
Du coup, tu devances une de mes questions. J'allais dire que votre site est extrêmement léché, et les photos sont très belles et visiblement travaillées. C'était important pour toi de travailler aussi sur l'aspect visuel ?
Oui, très important. Au départ, quand j'ai voulu lancer Irao, j'avais en tête une image fixe. Je me disais, j'ai envie d'aller sur un site où je vois plein de portraits, des portraits déjà, juste des photos, mais plein de portraits qui s'illumineraient comme des étoiles dans le ciel. Donc c'est cette image visuelle que j'ai gardée en tête quand j'ai créé le site, quand j'ai choisi le thème, quand j'essaye de faire en sorte que le site réponde aussi à ce besoin-là. Je me disais, chaque jeune qui vient sur iraotalent.com doit être en mesure de voir toute une, comme une galerie. Une galerie d'étoiles, voilà. C'est comme ça que j'ai vu ça, comme une galerie d'étoiles.
Quelques brèves sous l'onglet News, des vidéos courtes et rythmées pour teaser, comme on dit maintenant, c'est-à-dire pour promouvoir des contenus plus longs, en l'occurrence sur Irao, des portraits de jeunes talents inspirants. News, vidéo, portrait, c'est la formule d'IraoTalent.com, ce site 100% débrouille, 100% jeune et béninois, lancé en 2014 par Mylène Flicka, alors âgée de 17 ans, porté aujourd'hui par une dizaine de bénévoles et soutenu par une communauté de près de 15 000 abonnés.
Alors là, je crois que c'est l'une des plus belles choses de toute cette aventure, c'est de remarquer comment est-ce que toutes les personnes qui lisent nos histoires, qui lisent toutes les nouvelles que nous envoyons, tous les articles que nous écrivons, ils sont profondément attachés à Irao. Parce que j'ai vu un commentaire qui m'a touchée. Quelqu'un a écrit: chaque fois que je viens lire Irao, ma vie prend un nouveau tournant. Et ça, c'est un retour tellement positif et qui se compte par milliers. On ne compte pas le nombre de personnes qui nous écrivent en inbox chaque fois qu'on publie l'histoire d'un talent et qui nous disent: Seigneur, par cet article, vous m'avez aidé à me sortir d'une situation, vous m'avez donné le coup de boost qu'il me fallait, c'était le déclic qu'il me fallait. Et quand je sors dans la rue et que les gens me voient, ils viennent me voir: ah Mylène, l'article que tu as sorti récemment, par exemple, sur Stevie Wallace, je l'ai trouvé vachement inspirant, ça m'a vraiment aidé, je ne savais pas qu'il vivait les mêmes choses que moi. Et on les motive, on les inspire et surtout, on se rend compte en fait que avoir un rôle modèle, c'est quelque chose qui, lorsqu'on ne vit pas dans un contexte où on manque de repères, c'est pas quelque chose de si évident que ça. Mais dans un contexte où les gens manquent d'étoiles jeunes, de personnes, de personnalités qui inspirent, qui leur disent en fait, tu peux le faire. C'est tout ça. C'est tout ça l'enjeu de Irao. Montrer des jeunes qui disent à d'autres jeunes, tu peux le faire, vas-y. Et lorsque tu arrives à créer ce déclic-là dans beaucoup de cœurs, je crois qu'il n'y a pas un sentiment plus supérieur à ça. Je suis heureuse de voir que nous avons touché la cible. Nous avons touché le cœur des gens et nos abonnés sont très attachés aux histoires que nous écrivons. Baby, my baby don't care for shows and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care. Cars and races, baby don't care for. He don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace's smile, something he can't see. It's something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me.
C'est l'atelier des médias, nous sommes avec Mylène Flicka, fondatrice du site béninois Irao.
Au départ, nous demandions aux gens, écoutez, si vous voyez un talent autour de vous, quelqu'un qui réponde en fait à nos critères, écrivez-nous. donnez-nous son nom et nous allons écrire sur lui.
Donc vous demandiez ça à vos lecteurs ?
On demandait ça à nos lecteurs. Donc ce système perdure toujours et nous aussi à notre niveau, nous essayons de prospecter, de faire la veille à travers d'autres médias, à travers nos pages sur les réseaux sociaux aussi, de faire la veille autour de tout ce qui a rapport à la créativité africaine, au talent africain. Et à côté de cela aussi, nous avons remarqué un mouvement plutôt positif, c'est que chaque fois que nous écrivons un article sur un talent en particulier, d'autres personnes nous écrivent pour nous dire « Ah, il y a quelqu'un qui fait aussi telle chose à côté, je vous envoie son nom ». Donc il y a une sorte de mouvement spontané, des gens qui essayent de mettre en avant aussi des talents qu'ils connaissent. Et aussi, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises, de start-up, de jeunes talents qui nous écrivent et qui nous disent « Voilà, Irao, j'ai envie que vous écrivez sur nous. Voilà ce qu'on fait. Est-ce que vous pensez que... » Voilà. Donc, on essaye vraiment de couvrir tous les talents que nous pouvons couvrir. Mais je crois que c'est très difficile de les atteindre tous. Donc, chaque fois, quotidiennement, j'essaie de rappeler à mes abonnés « Écoutez, les gars, je suis là. Vous voyez un talent, je suis là. Écrivez-moi. »
C'est quoi vos ambitions pour Irao dans les années à venir ? Puisque là, vous avez déjà une belle audience. Mais donc, du coup, quels sont les projets futurs ?
Alors, déjà, pour cette année 2018, on essaie vraiment d'agrandir le média. Mais de l'agrandir d'une autre manière. Pas dans l'audience forcément, mais dans la manière dont nous faisons atteindre l'information. Par exemple, on se dit cette année, pourquoi ne pas faire des interviews des Irao entièrement en vidéo ? Pourquoi ne pas tabler sur un live vidéo Facebook pour faire passer le message ? Et d'ici trois ans, mon rêve, c'est de voir Irao devenir un média influent auprès de 60% de la jeunesse africaine, de 60% de la population africaine plutôt, que constitue la jeunesse évidemment. Parce qu'on se dit que le jeune qui est à Lomé a autant besoin d'inspiration que celui qui est à Abidjan. Donc cette année, l'année dernière par exemple, oui, j'ai effectué un voyage à Lomé pour aller voir aussi les talents, les Irao qui sont à Lomé. Donc mon but, c'est d'arriver à faire le tour du monde et le tour de l'Afrique pour dénicher tous les Irao africains partout dans le monde et écrire leur histoire pour que chaque jeune africain sur cette terre n'ose plus dire qu'il n'a pas de repère, qu'il n'a pas de symbole.
Sur ta signature, à la fin de tes articles, il y a marqué « Mylène rêve de changer le monde avec un stylo à billes et un clavier AZERTY ».
Ouais.
Du coup, au bout de 2 ans d'Irao et beaucoup plus d'années de blogging, est-ce que le monde, tu as réussi à le changer un petit peu ?
Ouais.
Comment ça ?
Définitivement. Tout simplement parce qu'il y a 3 ans, il y a 4 ans, quand je demandais à des jeunes autour de moi qui étaient ceux qui les inspiraient, ils étaient incapables de me répondre. Aujourd'hui, quand je pose cette même question, ce n'est pas la même chose. J'ai remarqué en fait qu'on a eu un impact plus que positif autour de la communauté que nous avions à Cotonou, que nous avions un peu dans la sous-région africaine. Parce que ce qui s'est passé en année 2017, c'est que tous les jeunes qui étaient au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, à Lomé, ont commencé aussi à nous suivre, à être très très engagés, très très connectés par rapport à Irao. Et je crois que cet impact va en grandissant. Et c'est aussi, ça dépend aussi du nombre de personnes que nous sommes en mesure de toucher. C'est la raison pour laquelle nous essayons de trouver tous les moyens par lesquels nous allons arriver à grandir notre audience, mais aussi à transmettre le message justement à tous ceux qui en ont besoin. Donc évidemment, je suis plus que convaincue qu'on est capable de changer le monde avec la force d'un bic et d'une feuille ou bien la force d'un clavier, parce que au départ j'avais juste mon petit ordinateur dans ma chambre d'étudiante en train d'écrire l'histoire d'un jeune talent que je connaissais, mais aujourd'hui c'est un média porté par 15 personnes et suivi par plus de 500 000 personnes dans le monde. Je crois que c'est énorme.
Irao, sous-titre Inspiré l'Afrique, est un très joli média retrouvé sur iraotalent avec un s.com. Mention spéciale à sa mise en page et à ses textes fouillés et soignés. Sa chaîne vidéo est encore naissante, elle tâtonne dans sa recherche de style et sa forme. Il est possible qu'un autre projet, dont il va être question maintenant, lui apporte une aide pour cela. Il nous reste quelques minutes avant la pause sur RFI, le temps d'évoquer Slice Up et Map Up. Ne vous fiez pas à ces noms anglo-saxons, il s'agit de projets français à destination de l'Afrique francophone.
Alors Map Up est une plateforme de vidéos géolocalisées qui a été créée par l'association Slice Up, qui est une association qui forme des jeunes producteurs de contenu en Afrique. Donc voilà, l'idée c'est qu'on forme des gens à produire des vidéos sur smartphone, Et ensuite, ces vidéos, ils ont une plateforme sur laquelle ils peuvent les montrer, c'est MapUp. Et MapUp, donc, c'est géolocalisé, chaque vidéo correspond à un point sur une carte.
Elsa Misquet, que vous venez d'entendre, est franco-mauritanienne. Elle est cofondatrice de l'association SliceUp, dont l'objet est de former des jeunes Africains à la réalisation de vidéos sur mobile. C'est donc à travers leur expérience de formation qu'Elsa et son associé ont décidé de lancer le site MapUp pour permettre aux bénéficiaires de leur formation, mais pas uniquement, de publier leurs vidéos sur une carte virtuelle de l'Afrique.
Alors tout d'abord, il y a les personnes qu'on forme pendant nos formations. Donc là, on en a formé une dizaine en Mauritanie. On va former une dizaine aussi d'artistes au Mali fin janvier. Et ensuite, on va former une dizaine de Togolais en février grâce à un crowdfunding qu'on a fait l'été dernier. Pendant les formations, il y a pas mal de vidéos qui sont produites sur différents sujets. On s'est dit que ce serait bien d'avoir une plateforme sur laquelle on pouvait mettre ces vidéos et surtout qu'elles soient géolocalisées pour que ça les ancre dans un contexte très précis. Et c'est aussi pour pallier au fait que souvent on parle de l'Afrique comme un espace vague. Et là, du coup, ça ancre les sujets dans des endroits vraiment concrets et précis. Donc voilà, toutes ces personnes-là sont les premiers contributeurs de MapUp et les vidéos qui sont sur MapUp sont des vidéos en majorité qu'ils auront produites pendant la semaine de formation. Par ailleurs, on a un réseau d'ambassadeurs qui sont des gens qu'on connaît, soit avec qui on a déjà travaillé ou dont on connaît le travail et qui font de la vidéo d'une façon ou d'une autre, que ce soit professionnel ou pas, mais qui vont justement poster notamment des ambiances. Pour l'instant, c'est surtout ça, en fait, les ambassadeurs, c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Mais ça peut être aussi des interviews, des reportages. Et pareil, c'est des gens qui vivent dans des réalités locales, peu importe dans quel pays ils sont, et qui ont un certain regard et qui ont envie de partager ça sur ce site. On essaye de ne pas avoir de contraintes éditoriales, parce qu'on veut vraiment que ce soit les personnes qui choisissent les sujets. Mais on leur a juste demandé de faire des sujets qui aient un angle positif. Même s'ils parlent de quelque chose qui peut être négatif à la base, donner un peu de l'espoir en fait. On se dit que si on montre que des problèmes et des catastrophes, ce qui est souvent le cas quand on parle de l'Afrique, ça va pas donner l'impression qu'il y a des solutions ou qu'on peut avancer ou qu'on peut s'en sortir. Donc là, oui, on a surtout insisté sur le fait que les sujets devaient être positifs. Et du coup, ils se sont intéressés à des gens qui avaient des initiatives qu'ils estimaient être positives, quoi. Nous, on croit au cercle vertueux de l'esprit positif, on peut dire, ça peut paraître très naïf, mais on n'est pas les seuls, il y a tout un mouvement en ce moment, certains l'appellent journalisme d'impact ou alors journalisme positif justement, et l'idée n'est pas du tout de masquer des choses qui seraient négatives ou de faire comme si tout était positif, mais c'est de se dire que pour contrebalancer la masse énorme d'informations négatives qu'on voit tous les jours, c'est important de proposer une alternative et de proposer d'autres choses qui ne sont pas ni dans le misérabilisme, ni dans le catastrophisme. Nous, en tout cas, on se dit qu'on forme des producteurs de contenu, des gens qui ont envie de raconter des histoires dans l'environnement dans lequel ils vivent. Ils ont des profils assez variés, donc on a des gens qui viennent de la presse écrite, on en a d'autres qui viennent de la télé nationale mauritanienne par exemple, on en a qui sont blogueurs, donc c'est pas forcément des gens qui ont fait des écoles de journalisme, déjà parce qu'il y a plein de pays où il y en a même pas, et que c'est pas du tout évident de faire ce type de formation, ça coûte cher, il faut aller justement souvent dans un autre pays, etc. Et ensuite parce que aujourd'hui, depuis que YouTube existe, etc., on voit bien qu'il y a plein de gens qui n'ont pas du tout de formation institutionnelle, classique, traditionnelle, qui sont capables de produire des contenus très intéressants et d'engager des audiences avec ce qu'ils produisent. Donc nous, on se considère dans cet état d'esprit-là du web qui est plus ouvert et moins peut-être un peu moins élitiste parce que on n'a pas envie en tout cas d'avoir pour critère que quelqu'un ait absolument son bac ou un master ou quoi que ce soit. Non, c'est est-ce que tu sais filmer, est-ce que tu as envie de filmer et est-ce que tu as envie de raconter des histoires, ça suffit en fait.
Pour en savoir plus sur SliceUp, l'association qui forme des talents à la vidéo en Afrique, et MapUp, sa carte de vidéo courte localisée géographiquement, c'est sur slice-up.com et mapup.com, mapup.com. Pause dans l'atelier, on revient dans un instant. Atelier des médias, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous vous proposons cette semaine de découvrir avec nous des projets médias jeunes ayant en commun un souci de libération de la parole contenue, retenue ou sous-représentée, et également un fort tropisme africain. Après Iraou et Mapup, dans la première partie de l'émission, place à Nos Mensonges, un site, un média sur l'amour homosexuel en Tunisie qui repose sur 13 témoignages. 13 histoires de mensonges, un projet porté par Sanas Poué.
L'idée est partie d'une expression tunisienne qu'on utilise beaucoup, c'est l'idée du mensonge blanc. C'est des petits mensonges qu'on fait, qu'on raconte pour pas faire de peine. C'est votre tante qui va vous inviter pour un énième dîner et vous avez pas envie. Au lieu de lui dire tata, j'ai pas envie parce que ça va lui faire de la peine, vous allez lui dire tata, j'ai du travail, par exemple.
Pourquoi mensonge blanc ?
Parce que c'est un mensonge qui est pas méchant. C'est pas un mensonge qui est fait pour tromper ou qui est fait avec un point de fin, avec une idée malveillante. C'est quelque chose qui est fait pour arranger en fait la situation de celui qui ment et la situation du récepteur, en gros, du mensonge. Donc c'est une manière d'arrondir les angles. Et du coup, l'idée de Nos Mensonges est partie de là, avec cette idée que je voulais pas qu'il y ait de jugement ou de côté moralisateur. Je voulais pas qu'il y ait une personne qui mente et l'autre, en gros, qui dise « Ah ben, on m'a menti ». Non, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est de dire l'amour et l'homosexualité sont des sujets tabous en Tunisie, encore beaucoup, et du coup, on crée parfois une nouvelle réalité autour d'expériences ou de nos vies, soit par pudeur, c'est arrivé à tout le monde de faire ça, je pense, dans sa vie, par pudeur de pas parler de ses sentiments ou alors de les habiller autrement, en fait. Soit, là, dans le cas de Nos Mensonges, il s'agit de mentir pour préserver un peu d'ordre social, de paix dans la famille.
Ne pas blesser ses proches.
Voilà, ou aussi ne pas risquer sa vie, finalement, parce que l'homosexualité en Tunisie est toujours punie par la loi de 3 ans d'emprisonnement. Donc, heureusement, tout le monde ne va pas en prison. On peut être, subir des désagréments dans sa vie de tous les jours pour éviter de se faire harceler, soit dans la rue, soit sur les réseaux sociaux, soit dans le cadre du travail. Donc voilà, on crée ces petits mensonges-là.
Sanas Bouey est franco-tunisienne. Elle est déjà intervenue plusieurs fois au micro de l'atelier des médias. La toute première, c'était en janvier 2012, un an après le départ du dictateur Ben Ali. Elle travaillait à l'époque pour un tout jeune magazine féminin tunisien en ligne. Par la suite, elle a rejoint l'équipe d'Inkifada, journal d'investigation bilingue porté notamment par Malek Khadraoui. Revenue en France, Sana se consacre maintenant à des projets de long cours comme Nos Mensonges, des projets qui reposent sur sa connaissance intime et profonde de la société tunisienne.
Je me suis toujours intéressée aux questions de société. J'aime bien regarder comment une société vit, évolue, ce qui s'y passe et ce qui émerge comme voix qu'on entend peu, qui sont souvent laissées de côté. Donc j'ai travaillé à couvrir la question de l'homosexualité quand j'étais en Tunisie. Il y avait des batailles qui étaient en train de se jouer pour les droits et les libertés individuelles dans un pays qui venait de voter une nouvelle constitution où les droits et les libertés individuelles sont proclamés dans cette constitution. Tous les citoyens et citoyennes sont censés être libres et égaux en droit et puis ne pas avoir de peur pour leur intégrité physique. Sauf que la question de l'homosexualité, ça reste un tabou qui fait que certaines personnes peuvent être embêtées. Et donc moi, je suis partie de cette idée que j'ai déjà couvert cette thématique. Il y a encore des enjeux de liberté autour de ça. Sauf que ce que je voulais faire cette fois-ci, c'était pas seulement dire « voilà, ça va pas ». C'était pas seulement entendre des voix de personnes qui se plaindraient, mais ça, c'était d'essayer de trouver des points communs dans toute la population, entre tous les individus, pour dire en fait, on est tous pareils. Et au lieu de faire des distinguos et de parler de communauté et de créer des gouffres, dire voilà, on est tous pareils. À un moment donné, on a tous raconté quelque chose autour de l'amour. Et comment on fait là pour parler de cette problématique de manière différente en créant des ponts entre nous?
Et donc, au lieu de parler de ce sujet, disons, d'une manière traditionnellement journalistique ou d'une manière typiquement journalistique, donc en dénonçant ou en expliquant ce qui ne fonctionne pas, tu as décidé un peu de te mettre du point de vue des homosexuels ou des personnes pour leur demander de te raconter, en fait, leurs mensonges, c'est ça ?
Oui, leurs mensonges qui sont aussi les nôtres, hein, parce que la société ne veut pas voir ce qui se passe, donc tout le monde s'arrange bien de cette réalité qui est transformée. Et l'idée, c'était effectivement de trouver des ponts et des liens dans des histoires qui allaient tous nous toucher, parce que je pense que tout le monde un jour a dit à ses parents, je vais réviser un devoir ou je vais préparer quelque chose chez un copain ou une copine, et en fait elle est en douce voir son amoureux ou son amoureuse. Je pense que ça c'est universel. Donc c'est ce genre d'idée qui pour moi crée des ponts et des liens. Et il y avait aussi l'idée sur la forme de sortir de... Enfin ma peur c'était que ce que je voulais surtout pas, c'est quelque chose qui fasse du buzz et qui soit voyeuriste. C'est vraiment... ma hantise.
Tu voulais quelque chose de discret.
Oui, et surtout qu'il soit un peu poétique, en fait. L'idée, c'était pas de dire, oh là là, regardez, on a des menteurs, et puis on a des gens qui sont trompés. C'était pas du tout ça. L'idée, c'était de dire, c'est des à côté, c'est des arrangements. Et, ces arrangements que tout le monde fait, j'avais envie de les mettre en scène de manière un peu différente. Donc, du coup, j'ai été lauréate d'un prix de la Fondation Alpha-Rambourg pour l'art et la culture en Tunisie. Et ça m'a permis d'avoir une approche différente sur la mise en forme de ces témoignages. Alors, on les trouve en français, mais ils sont traduits en dialecte tunisien, et pas en arabe, en dialecte tunisien. Et surtout, on peut les écouter, parce que j'ai embauché un jeune homme et une jeune femme qui font des voix off en Tunisie, et qui étaient complètement partants pour lire ces témoignages, avec l'idée aussi qu'il fallait préserver l'identité des gens qui témoignent, pour que rien ne leur arrive, même si certains témoignent avec leur vraie identité. Mais voilà, j'ai réussi à trouver deux personnes qui avaient complètement envie, comme tout le reste de l'équipe d'ailleurs, à qui, dès que j'ai parlé du projet, on dit oui, il n'y a pas de problème, on y va, on assume, on met nos noms et nos prénoms, on est content de porter ce projet. Et du coup, il y a cet aspect aussi là, sonore, où on peut écouter ces témoignages qui sont une espèce de recréation en fait de la réalité, avec aussi un aspect graphique important de l'illustration qui n'est pas une photo volée. Ou un montage un peu étrange. Non, là, l'idée, c'était de voilà d'être comme dans un petit journal intime où on se confie et où on aurait fait des petits dessins autour de la scène qui est racontée.
Et donc, quand on arrive sur le site, hein, nosmensonges.com, on arrive sur une sorte de carnet intime, dont on peut ouvrir les pages en cliquant. Enfin, c'est assez naturel. Et on peut découvrir les différents témoignages en texte. Il y a un petit lecteur qui permet d'écouter ces témoignages, donc lus par un acteur homme quand il s'agit d'un homme, par une actrice femme quand il s'agit d'une femme. Et à côté de chaque texte, en regard, il y a une illustration faite par Zed, qui est un artiste tunisien assez connu.
Oui, c'est un caricaturiste tunisien génial qui travaille depuis des années. Alors à l'époque, son blog a été... un blog d'opposition au dictateur Ben Ali, dans lequel il croquait ce qui se passait dans le pays. Et là, il s'est prêté au jeu de faire un autre type de dessin, de sortir de la caricature et d'aller vraiment dans du croquis et de l'illustration pour une thématique que lui défend aussi.
Je suis sortie avec une amie de ma sœur sans que ma sœur n'apprenne jamais que nous étions toutes les deux homosexuelles. Ma sœur vivait à l'étranger et je suis allée lui rendre visite. Un soir, j'ai rencontré sa voisine, qui était une bonne copine à elle. C'est avec elle que j'ai compris que j'étais homosexuelle, quand un soir, nous nous sommes embrassés. C'était la première fois. Je savais que j'étais différente, mais je n'avais jamais embrassé personne. J'étais jeune et j'avais peur de dire à ma sœur ce qui s'était passé. J'ai demandé à cette fille de ne rien dire à ma sœur. Et puis je suis rentrée en Tunisie. Au bout de 6 mois, ma sœur est venue en vacances et par surprise, ma copine était là. C'est une surprise incroyable. Jusqu'à présent, personne ne sait rien de cette histoire, alors que ça fait 7 ans que ça a eu lieu et que cette amie est toujours proche de ma sœur.
On vient d'écouter, Sana, des témoignages. Il y en a 13, c'est ça, je sais.
12.
13. J'en ai compté 13.
Ouais, il y en a 13. Je me rappelle plus des prénoms. Je me rappelle plus du nom.
C'est normal que tu te rappelles plus des prénoms puisque ce sont des pseudonymes pour la plupart des témoignages. L'ensemble de ce projet, tu l'as dit, a une volonté d'être modeste, discret, pas criard du tout. Voilà, respectueux un petit peu de l'esprit des personnes qui témoignent, de l'intimité également. Mais j'imagine, connaissant le web tunisien, qu'il y a qu'il y a quand même dû y avoir des personnes qui l'ont vu, des commentaires, etc. Comment ça a réagi? Comment les personnes ont réagi? Quel type de réaction tu as eu?
Pour l'instant, on a eu que des réactions hyper positives. Je pense que le traitement, il joue pour beaucoup, mais on a eu que des réactions hyper positives. J'ai des personnes qui me contactent parce qu'elles veulent témoigner, apporter leur témoignage. Donc, bien évidemment, le projet est ouvert et tous ceux et toutes celles qui veulent témoigner sont bienvenus pour raconter leur histoire. Il y a une seule personne qui m'a dit que c'était pas possible de partager ça sur une page Facebook parce que le mot lesbienne est interdit. Alors je sais pas où, mais dans sa tête apparemment c'est interdit. Mais sinon non, ça a été très bien accueilli. Donc je pense que le but a été atteint. L'idée c'était de montrer. On le voit aussi à travers les profils des gens. Même si les prénoms ont été changés, les occupations, c'est-à-dire est-ce que c'est des étudiants, est-ce que c'est des architectes, journalistes, ça c'est la réalité. Et les personnes qui témoignaient voulaient justement que leur catégorie socio-professionnelle soit indiquée pour dire bah, on est des jeunes normaux en fait. On n'est pas des personnes complètement exubérantes comme on pourrait caricaturer en Tunisie. On est des gens normaux qui ont une vie normale. Et donc je pense que ça a marché, cette espèce de narration qui crée un lien. Je pense que ça a fonctionné et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu pour l'instant de censure ou de retour négatif sur le projet.
Nos mensonges de Sana Spway est à découvrir absolument sur nosmensonges.com et probablement un jour en livre aussi puisque le site est construit comme un carnet intime.
ديما تحب تعرف كان انا مصحب طفله ولا لا ونهارو طول تسال فيا ايش خليني ساعه ومعها تصوير الطفله ونسمي لها اي اسم الحيط
Faith lets you fall into arms without a word and only the size of your breath are heard I'm not one to go to church You made me believe in something more than hurt I feel like I don't have the words I feel like I don't have the words Because I can't speak Am I so naive? I feel like I don't have the words Because I can't speak
Of these words I've tried to recite They are close but not quite Of these words I've tried to recite They are close but not quite
RFI L'atelier des médias
Dernier partage, dernière recommandation du jour, il s'agit d'un projet vidéo international francophone qui vient de fêter ses 2 ans. Son nom, Léo Parleur.
Léo Parleur, c'est un média qui est en ligne et qui donne la parole à des jeunes reporters vidéastes, tous francophones, partout dans le monde. Et la spécificité, c'est qu'en 3 minutes, ils nous proposent des sujets sur leur terrain, des sujets de société qui leur tiennent à cœur. Ils mettent leur personnalité, leur ton, leur créativité, parce que toutes les vidéos sont très différentes. Et ils nous racontent voilà, à la fois des sujets sur... ça peut être sur les réfugiés, ça peut être sur le travail, ça peut être sur les femmes, le harcèlement, ça peut être sur... plein de sujets de société qui les motivent et qu'ils ont envie de défendre.
Elle, c'est Claire Le Proust. Elle est la fondatrice de l'agence de production Fab Lab Channel qui explore la fabrication de contenus audiovisuels adaptés aux nouveaux environnements numériques et aux usages de la jeunesse. C'est au sein de cette entreprise, de cette agence, qu'est née et qu'est portée en partenariat avec TV5 Monde le projet des haut-parleurs.
Bonjour à tous, je m'appelle Wilson, je me trouve actuellement en Irak où je couvre la bataille pour Mossoul.
Bonjour tout le monde, lui c'est Momo, il est slammer au Togo et il prend des risques en faisant cette vidéo.
Bonjour, je m'appelle Amina et j'habite à Alger depuis 4 ans. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'un sujet qui touche les femmes célibataires en Algérie.
Moi c'est Marie Chantal en Italie et je me demande c'est quoi l'histoire avec les séparatistes ces temps-ci.
Bonjour, moi c'est Lila en Turquie et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui trotte dans la tête de beaucoup de jeunes hommes turcs. Faire ou pas faire son service militaire obligatoire.
Bonjour, je m'appelle Ecclesias Dedui, je suis journaliste et blogueur. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du nouveau chemin de croix de la pièce d'identité ici au Cameroun.
Salut, c'est Caroline à Bruxelles. Et alors quoi ?
On laisse Monsanto tirer les ficelles en Europe ?
Il y a eu un premier déclic qui était lié au travail que j'ai eu juste avant de créer ma société, Fab Lab Chanel, parce que j'ai passé 5 ans à CAPA, qui est une société de production audiovisuelle, dans laquelle le cœur de réacteur est journalistique. Et j'ai eu cette envie de renouer à la fois avec le journalisme, et surtout, je me suis rendu compte que sur le web, il y a 3 ans, quand on regardait ce qui était produit, il y avait d'une part tous ces youtubeurs qui s'étaient emparés de nouvelles façons de raconter des histoires avec un ton beaucoup plus spontané, d'une génération qui s'adressait à sa génération, mais avec un ton plus libre, même si c'était plutôt et dans l'humour, etc. Et dans le journalisme, il n'y avait pas grand-chose. Voilà. Et donc, le déclic, il est venu de là. Se dire que, autant l'information était très traitée, l'information, l'actualité chaude, mais dès qu'on voulait avoir des sujets de société, avec un petit peu de recul, et avec ce même ton frais que les youtubeurs peuvent avoir quand ils l'appliquent aux jeux vidéo ou à l'humour ou autre, mais appliqué au journalisme, eh bien, finalement, ça nous donnerait certainement une autre façon de toucher les jeunes avec des sujets de société qui, sur leur terrain, auraient la même légitimité et pourraient les intéresser.
Les haut-parleurs, ce sont aujourd'hui 82 jeunes reporters répartis partout sur le globe qui ont produit depuis novembre 2015 plus de 200 vidéos.
En général, les haut-parleurs, donc ils ont entre 18 et 30 ans. Leur profil, en grande majorité, est plutôt un profil de journaliste reporter d'image, donc d'où ce nom de reporter. Mais certains sont des blogueurs venus à la vidéo, qu'on appelle vlogueurs. D'autres sont plutôt des activistes qui ont aussi l'habitude d'utiliser la vidéo. D'autres ont plutôt pris le chemin de YouTube pour venir s'exprimer. D'autres sont plutôt des vidéastes documentaristes. Voilà, donc en général, ils savent maîtriser la vidéo, puisque c'est aussi ce qu'on leur demande, puisqu'ils font vraiment tout à distance. Même si nous, on les aide beaucoup, on les encadre beaucoup depuis Paris, dans la rédaction en chef et dans la fin du montage. Et on commence à avoir des profils un petit peu hybrides. Et on aime bien développer ce qu'on appelle du journalisme créatif, dans la mesure où ce qu'on leur demande, c'est à la fois de mettre leur personnalité, mais aussi une forme de créativité dans la façon dont ils racontent les histoires. C'est pour ça que certains slament, d'autres rappent, d'autres dessinent, d'autres vont mettre du design, d'autres vont utiliser la photo, le stop motion par exemple. Et donc on a une forme qui est proposée par les haut-parleurs qui est très variée. Les haut-parleurs, ce sont des vidéos qui sont chartées, au sens qu'on reconnaît le logo, on reconnaît le fait qu'ils incarnent chacun leur sujet, qu'ils produisent de l'image. Mais on est plus dans le café versus Starbucks. C'est-à-dire qu'on aime on veut pas de standardisation, on veut pas de modèle unique, un peu à la façon de ces programmes très à la mode comme Brut, AG+, etc., qui consistent à remonter ou donner des interviews, mais très très chartées avec des titres, etc., parce que pour nous, ça devient déjà un standard. Et on pense qu'il faut revenir à l'humain, il faut revenir à des histoires racontées, il faut redonner de la personnalité, il faut redonner de la confiance aussi à ces jeunes qui s'expriment, et que c'est comme ça que petit à petit, on va gagner la bataille. Donc on est assez à rebrousse-poil par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, mais c'est ça qui nous amuse, et ça, on y tient beaucoup.
Nous voulons un pays et nous l'aurons.
En octobre en Italie du Nord, en Catalogne, en septembre au Kurdistan irakien, en 2014 en Écosse. Moi, c'est Marie-Chantal en Italie et je me demande, c'est quoi l'histoire avec les séparatistes ces temps-ci? Les référendums pour l'indépendance sont à l'ordre du jour et aujourd'hui, résidente en Italie, je vais enfin pouvoir exercer mon droit de vote dans le référendum pour l'autonomie de la Lombardie.
Sono venuto a votare per il referendum dell'autonomia della Lombardia. Noi ciò che produciamo in questa regione viene spartito non equamente in tutta l'Italia. Io sarei anche per l'indipendenza. Questo com'è è semplicemente per lanciare un segno verso l'indipendenza.
Ici en Italie du Nord, c'est pas l'indépendance qu'on réclame, mais en fait plus d'autonomie, c'est-à-dire plus de pouvoir en matière de taxes, d'immigration et de sécurité. Pour tout vous dire, il y a quelque chose qui me rend assez mal à l'aise dans ce vote, parce que ceux qui lancent l'idée, c'est la Ligue du Nord. C'est un parti populiste, anti-migrant, anti-euro, un peu dans le style du Front National en France. En fait, ils ont organisé le référendum pour plaire à leurs électeurs. Ils se réclament porte-parole de la Padanie, une région du nord de l'Italie qui n'existe même pas historiquement. Donc, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu de l'arnaque. D'un autre côté, en tant que Québécoise, je comprends ce que ressentent les Catalans, les Kurdes, les Écossais. Je sais ce que ça veut dire faire partie d'une société distincte, de sentir qu'on est un peuple, mais qu'on n'a pas de pays. J'en profite pour sortir mon drapeau québécois et vous expliquer notre histoire.
Alors, la façon dont on travaille avec ce réseau de jeunes reporters, d'abord, il y a une façon de les avoir sélectionnés qui est très, très variée. Mais une fois qu'on les a sélectionnés ou qu'ils viennent vers nous et qu'ils ont envie de faire des vidéos, l'idée, c'est vraiment de proposer des sujets qu'ils ont vraiment envie de défendre parce que ça les concerne, parce qu'ils ont envie de faire bouger des choses, parce que parfois ils ont envie de condamner des situations pour essayer de les faire évoluer. Par exemple, au Togo, là, on vient de diffuser une vidéo d'un jeune qui s'appelle Momo, qui tout en slam, avec un slam et une voix très douce, vient condamner le régime en place sur les horreurs de ce tyran et de cette dictature, à un moment donné où toute la société civile descend dans la rue pour revenir à un état plus démocratique. Voilà, lui, typiquement, sa vidéo, c'est un cri d'alarme adressé au monde, et encore une fois, dans un slam qui est assez poignant. On peut en avoir un autre, Roman au Sénégal, qui rappe sur le fait que, pour des raisons de tradition, et pas uniquement de religion, stricto sensu, mais de tradition, encore trop de petites filles sont excisées. Voilà, ça, c'est un sujet qui le touche. Mais il y a aussi, si je parle de l'Algérie, par exemple, Amina, qui s'est rendue compte, quand elle était à Alger, qu'en tant que jeune fille célibataire, elle avait du mal à se trouver un logement. Et qu'en vivant cette situation-là, elle s'est rendue compte qu'en fait, toutes les jeunes femmes célibataires avaient du mal à trouver ce logement ou à se loger, tout simplement parce que les propriétaires refusaient de leur louer un logement. Et que si elles arrivaient parfois à trouver ce fameux logement, leur vie était tellement compliquée parce que tout le monde les surveillait, les voisins, les gens à l'extérieur, etc., reportant leurs faits et actes aux propriétaires, qu'elles devaient à un moment donné changer et se remettre dans une situation d'avoir à retrouver un logement. Bon, ça, typiquement, c'est un sujet qui a fait 250 000 vues, où on a vu la société s'affronter sur, finalement, le rôle de la femme en Algérie, mais ça aurait pu être dans d'autres pays. Et ce sujet-là, il a marché parce qu'il était particulièrement concernant et parce qu'elle avait vraiment envie de montrer ce problème et d'essayer de faire en sorte qu'il puisse être résolu en touchant la société directement. Voilà, donc on a plein d'histoires comme ça. Dans ce sens-là, ils sont activistes à leur manière. Ils sont aussi parfois dans la chronique. Mais en tout cas, ils sont tous engagés dans leur sujet. Et surtout, je pense, je redis ce terme-là, parce que je pense que ce qui est vachement important, c'est vraiment cette forme de légitimité. C'est-à-dire pourquoi ils sont légitimes à raconter ce sujet-là. Et à ce titre, on s'est rendu compte aussi qu'il valait mieux qu'en France, comme dans le monde, nos haut-parleurs soient vraiment sur place. D'une part, qu'on n'en voit personne, mais aussi qu'ils soient vraiment locaux. C'est-à-dire qu'ils connaissent l'endroit où ils vivent, voire même ils sont de ce pays-là, plus que de donner la parole à des correspondants. Parce que la parole donnée à un correspondant, même quand il est depuis 3 ans dans un pays et qu'il a l'habitude de travailler avec d'autres médias, eh bien, il n'est pas le même. Il n'a pas la même légitimité que celui qui parle depuis son pays, avec sa culture, avec ses autocensures, avec ce qu'il sait, les limites parfois de ce qu'il sait pouvoir bouger ou ce qu'il sait ne pas pouvoir faire bouger. Et que ça, c'est vachement, vachement important. Ghana, Africa, yo! Ghana, Africa, yo! Eh, eh. Ghana, Africa, yo!
Ghana, Africa, yo! Des médias, nous sommes cette semaine avec Claire Lepoust, fondatrice de l'agence Fab Lab Chanel qui produit Les Haut-Parleurs. Les Haut-Parleurs, c'est un réseau de jeunes reporters francophones installés sur les 5 continents et dont les vidéos sont diffusées sur un site lesautparleurs.tv5monde.com mais aussi sur YouTube, Facebook ou encore à la télévision via Orange. Ce projet est né dans une période de multiplication des médias vidéo à destination des jeunes et partageable facilement sur les réseaux sociaux comme Brut, AG+, ou encore Loopsider, né tout récemment. Les Haut-Parleurs se distinguent des autres initiatives par son positionnement international, ses choix éditoriaux et par ses formats plus longs et diversifiés que ceux de ses concurrents.
D'abord, nous, on n'est pas sur l'actualité. On n'est pas un journal, enfin voilà, on n'est pas un média d'information au sens de l'actualité chaude. Un, parce que beaucoup de concurrents sont là-dessus. Deux, parce que si je vous demande est-ce que vous avez l'impression de manquer d'informations, je pense qu'aujourd'hui tout le monde peut répondre que non. C'est-à-dire qu'on est abreuvé d'énormément d'informations. Donc c'est pas cette information-là qui nous manque. Mais par contre, on a besoin d'autres informations qui sont soit plus du domaine de ce reportage, de l'humain, du terrain, de la légitimité de parler d'un sujet, d'être très concernant, de revenir au local, mais on a aussi d'autres besoins de journalisme, comme l'investigation lourde, l'enquête, le documentaire d'auteur, le documentaire long, etc. Tout ça, nous, on ne répond qu'à une petite partie de ce journalisme-là, mais on veut absolument revenir sur l'humain, un peu comme on pourrait se dire que si on continue un monde où la finance et le marketing dirigent, peut-être qu'on passe un peu à côté d'autres choses. Et ben nous, on a envie de dire ça avec le journalisme. Donc revenons un peu à arroser les plantes et des plantes vertes, si possible, et arrêtons de n'être que dans une information qui devient de plus en plus brute et standardisée d'une certaine manière, et en tout cas qui est perçue comme telle par les gens et qui joue beaucoup aussi des émotions. Nous, on a envie de jouer des émotions, mais autrement.
Pour en savoir plus sur les haut-parleurs, sur nos mensonges, sur MapUp et sur Irao, c'est bien entendu sur le site RFI.fr et sur l'atelier des médias atelier.rfi.fr. Les entretiens de l'émission de ce jour ont été réalisés par Mathilde Saliou, merci et bravo à elle, également par Ziad Malouf, à la réalisation Simon de Creuse, en coulisses Camille Deloche et Léo Caravagna. Merci de votre fidélité, de votre écoute et de vos messages. Salut à toutes et à tous.